France Musique.
Bonjour.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to?
Quel est le point commun entre Nina Simone? Alma Mahler. Fanny Mendelssohn. Charlotte Soy. Henriette Renier. Julia Perry. C'est le silence. Pression familiale. Interdit imposé par la société. Occultation de l'histoire musicale. Toutes ces compositrices ont été confrontées au silence. Aujourd'hui, nous abordons le silence imposé aux musiciennes. Bienvenue dans Silencio.
Ne crois pas que dans la relation entre deux époux, je fasse de la femme une sorte de passe-temps chargé malgré tout du ménage et du service de son mari. Tu ne crois pas, n'est-ce pas, que ce soit là ce que je pense? Mais que tu doives être celle dont j'ai besoin, si nous devons être heureux, mon épouse et non pas ma collègue, cela c'est sûr. Est-ce que cela signifie pour toi une interruption de ta vie? Crois-tu devoir renoncer à un grand moment de ton existence dont tu ne pourrais te passer si tu abandonnes complètement ta musique afin de posséder la mienne et aussi d'être mienne? Cela doit être clair entre nous, avant que nous ne puissions songer à un lien qui nous unisse pour la vie.
C'est en ces termes, ici racontés par Anne-Charlotte Raymond, que Gustav Mahler s'adresse à sa future femme, Alma Schindler, en décembre 1901. Alma, femme brillante élève de Dzeminski, devra abandonner la composition après son mariage. Mahler prétextant qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul génie dans un foyer, et bien sûr, ce génie est masculin. Le premier responsable du silence des compositrices, c'est souvent la famille. Parfois, c'est le père. Ainsi pour Maria Anna Mozart, surnommée Nannerl. Durant sa jeunesse, la sœur de Wolfgang est une enfant prodige. Mais son père Léopold lui ordonne à 18 ans de se marier avec un homme qu'elle n'aime pas. Des témoignages évoquent des œuvres qu'elle aurait composées. Mais aucune, malheureusement, n'a été retrouvée. Pour Fanny Mendelssohn, dont nous entendons actuellement le Notturno, c'est à la fois son père et son frère Félix qui la tiennent en dehors de la carrière. Son père lui dit l'année de ses 15 ans, « La musique restera pour toi un ornement. » Et lorsque Goethe vient à la maison, Fanny doit rester à l'écart, en compagnie des autres femmes. Parmi ces figures musicales, on songe bien sûr à Clara Schumann. Pour Clara, le sacrifice est double. Elle se dévoue d'abord à son mari Robert, puis après la mort de celui-ci, à leurs enfants. En 1839, Clara écrivait déjà dans son journal « Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune n'a encore pu le faire. Et cela devrait être mon lot ? Ce serait une arrogance que seul mon père autrefois m'a donnée. » Pour revenir à Alma Schindler, ce n'est qu'à la toute fin de sa vie que Gustav Mahler apprendra l'existence d'œuvres d'Alma, écrites juste avant leur rencontre. Grand seigneur, Mahler aidera à la publication de Lieder d'Alma, dont celui-ci, nommé Laue Sommernacht. Lauer Sommernacht d'Alma Mahler par Sabrine Ritterbusch soprano et Heidi Kommerell au piano. Toutes les musiques de cette émission, chers auditeurs et chères auditrices, ont été choisies par la musicologue Florence Launay. Comme elle habite en Allemagne, elle devait être en duplex depuis les studios de la VDR. La Covid en a malheureusement décidé autrement. Mais elle est présente avec nous cet après-midi au téléphone. Bonjour Florence Launay.
Bonjour Laurent Villarem.
Vous avez publié en 2006 un livre de référence chez Fayard intitulé « Les compositrices en France au XIXe siècle » dans lequel vous démontrez que, contrairement à l'idée reçue, il existait de nombreuses compositrices reconnues au XIXe siècle.
Oui, et c'est vrai qu'il est important de ne pas confondre le silence qui plane maintenant sur les compositrices du passé avec un silence impénétrable quand elles étaient actives. Et il y a eu des musiciennes qui ont pu faire des études approfondies de composition, qui se sont constituées un réseau pour se faire jouer et qui ont pu atteindre à une certaine notoriété. Pour le 19e siècle en France, j'en compte une trentaine à avoir eu un statut de compositrice professionnelle.
Mais parmi ces compositrices qui doivent renoncer au seuil de l'âge adulte, vous souhaitiez nous présenter Mademoiselle de Kercado, une inconnue pour beaucoup d'entre nous.
Oui, Mademoiselle de Kercado a composé à 19 ans un ouvrage dans le style italien qui a été créé en 1805 au théâtre de l'Opéra Comique. Et l'auteur du livret, Alexandre Duval, raconte que tout au long des répétitions, chanteurs et musiciens cherchaient à deviner qui pouvait être ce jeune compositeur italien talentueux. Ou même peut-être s'agissait-il d'un maître français qui s'essayait incognito au style italien. Et quand le succès du spectacle a permis de dévoiler les noms des auteurs à la première, Duval nous raconte, je le cite, « Plusieurs des acteurs qui avaient admiré la musique changèrent complètement d'opinion. Et comme il leur semblait impossible qu'une jeune demoiselle pût composer la musique d'un opéra, pendant les 12 ou 15 représentations que la pièce obtint, ils trouvèrent convenable de déprécier dans le monde l'ouvrage qu'ils avaient admiré, avant de connaître le nom de son auteur. »
Mon Dieu, quelle horreur.
Mademoiselle de Kercado, à mon avis, a dû être complètement découragée par ce qui est vraiment une injustice. Et elle a disparu de la vie musicale. On n'a plus de traces de musique de sa part. Alors que, d'après les usages de l'époque, comme un premier succès était considéré comme un coup d'essai, les portes de l'opéra comique lui étaient ouvertes pour d'autres ouvrages.
Et il ne reste aucune partition d'elle? On peut retrouver...
Alors, on a un manuscrit, mais qui n'est pas le manuscrit définitif. Mais l'œuvre existe encore, en partie, du moins à la bibliothèque de Nantes.
Les musiciennes que nous vous présentons cet après-midi sont oubliées. Mais il y a des exceptions, et on pourrait même dire qu'il s'agit d'exceptions qui confirment la règle. Pour qu'on se souvienne d'une compositrice, il y a une règle d'or. Une compositrice doit bénéficier d'une protection. Dans le livre « L'égalité en actes » aux éditions MF-CDMC, le musicologue Jacques Amblard parle même de « bouclier ». Cela peut être l'Église, comme ici Hildegard von Bingen au XIIe siècle, ou Isabella Leonarda, qui fut la mère d'un couvent d'Ursuline au XVIIe. Leur musique appartenait à la vie de leur communauté. Mais cela peut être un clan familial d'artistes ou de musiciens, comme Barbara Strozzi, dont le père est poète, ou Francesca Caccini, dont le père était compositeur à la cour des Médicis. C'est un peu ce qu'il se passe aujourd'hui avec les filles de comédiens ou de producteurs dans les milieux du cinéma. Dernier bouclier possible, la protection d'un homme influent, comme Augusta Holmes au XIXe siècle, qui fut l'amante de Catulle Mendès, le poète parnassien. D'ailleurs, Florence Launay, en préparant l'émission, vous m'avez parlé d'un exemple très frappant qui rappelle que le silence des compositrices est aussi une question d'ordre social, peut-être on pourrait même dire de classe sociale, puisqu'il est encore plus difficile d'être compositrice quand on vient d'un milieu pauvre.
Oui, on le voit avec les exemples de Mel Bonis et Marie Renaud. Elles font partie des étudiantes de milieux modestes qui peuvent donc étudier la composition au conservatoire à partir de 1850. C'est une formation approfondie et gratuite. Mais au niveau de la carrière, ce sont les mêmes éléments qui restent en place. Il faut soit avoir un réseau de musiciens grâce à une carrière de pianiste ou de cantatrice. Je rappelle, ce sont les seules possibilités puisque les femmes ne peuvent pas être chef d'orchestre ou maître de chapelle. Ou alors il faut être d'un milieu aisé. Et Marie Renaud, qui était professeure de solfège sans traitement au conservatoire, veuve très jeune, n'a pas eu les moyens de s'imposer alors qu'elle avait gagné des prix à la Société des compositeurs pour des pièces symphoniques, des concertos. Sa camarade Mel Bonis, elle, épouse un riche industriel et a pu se consacrer à la composition, se faire une place, qui est attestée par son élection en 1910 comme secrétaire de la Société des compositeurs.
Donc il vaut mieux épouser un riche industriel que d'être veuve très jeune. Mais vous souhaitiez revenir sur la notion que le musicologue Jacques Amblard abordait avec ce terme de bouclier.
Oui, parce que les boucliers et les protections ne sont pas une spécificité des femmes. On le voit pour tous les compositeurs. Bon, je cite François Ier pour Jeanne-Quint ou Louis XIV pour Lully, le père de Mozart, Clara Schumann qui a beaucoup promu la musique de Brahms. Donc en fait, tout compositeur a besoin de protection pour réussir. Le talent, ça ne suffit pas. Et heureusement que des compositrices ont pu bénéficier des mêmes mécanismes. Et cela malgré le facteur extrêmement aggravant des théories sur une nature féminine qui est destinée à la procréation et qui est incapable de création. Donc la compositrice souffre d'une illégitimité native qui accroît la difficulté de la carrière, qui est de toute façon difficile pour tout le monde. Mais pour les femmes, c'est encore plus difficile et cela pèse aussi sur la prise en compte par l'histoire.
Ces théories fumeuses sur la nature féminine existent toujours. Écoutez par exemple ce que disait Léo Ferré, un musicien pourtant, dans l'émission « À bout portant » en 1971. Je vous laisse juge de la portée de ces paroles.
La misogynie, c'est intéressant aussi, vous savez. On ne sait pas ce que c'est que la misogynie, mais il faut être misogyne. Il faut aimer les femmes, mais être misogyne, savoir mettre les femmes à leur place, justement, sur un trône, ça, les adorer, mais... Quand on a fini de les adorer, il faut qu'elles vous foutent la paix. Je hais certains types de femmes, en tous les cas les femmes cultivées. De toute façon, ils ne rentrent plus une chez moi. C'est pas assez intelligent. Jamais. Jamais. L'intelligence des femmes, c'est dans les ovaires. Ça à tout prix. Vous comprenez? Je dis pas ça en mauvaise part. Dieu sait si j'aime la femme, je l'admire. Bon, puis après, hein? Bon. La femme, c'est la mère. Voilà.
Nous sommes au début du XXe siècle, et malgré tous les Léo Ferré du passé, du présent et de l'avenir, la place des femmes dans la musique est de plus en plus forte. Soudain, deux sœurs entrent dans l'histoire. L'une, c'est l'étoile filante, la vedette, qui décède malheureusement en 1918 à l'âge de 24 ans. C'est Lili Boulanger. L'autre, c'est Nadia, sa sœur, dont on entendra, après l'extrait musical, un petit bout d'entretien. On écoute tout d'abord « D'un matin de printemps » de Lily Boulanger par le trio Boulanger.
Remarquable.
L'attraction, la fascination de Mme Boulanger.
J'ai eu le bonheur d'être élevé par une mère invraisemblablement intelligente, elle-même est assez pour être impitoyable dans ses jugements. Oh, je suis incapable d'écrire une œuvre quelconque. J'ai compris il y a 20 ans que je n'étais pas un compositeur.
Cette voix, c'est celle de Nadia Boulanger, la sœur de Lily, qui représente une catégorie de compositrices à part. Les musiciennes qui perdent confiance en elles et deviennent pédagogues. On pourrait également évoquer Henriette Renier, mais Florence Launay, vous souhaitiez nous parler de Marie-Jaël.
Alors Marie-Jaël était une pianiste célèbre, elle a été amie de Liszt, qui l'a beaucoup encouragée. Elle est élève de Saint-Saëns pour la composition, et en 1894, elle publie des pièces de piano inspirées par l'enfer de Dante. Comme elle publiait très peu, il est clair qu'elle croyait en ces pièces. Pourtant, par la suite, elle ne compose plus à part une courte pièce d'orchestre et quelques morceaux pédagogiques et elle se consacre totalement à l'enseignement du piano. Alors il est bien possible que l'opinion négative de Saint-Saëns ait joué un rôle dans son abandon de la composition car elle lui avait écrit en 1893, je la cite, « Quel intérêt voulez-vous que j'aie à vous envoyer mes manuscrits ? Ils contiennent des idées très neuves, elle souligne le trait. Si Liszt était de ce monde, elle lui aurait fait un plaisir énorme, il aurait été heureux de me dire « marchez en avant ». Je croyais que vous lui ressembliez. Liszt, qui a beaucoup soutenu Marie-Jaël, elle pense que ses pièces lui auraient beaucoup plu, et elle est très déçue, on comprend par ce qu'elle dit, « je croyais que vous lui ressembliez, je croyais que vous ressembliez à Liszt dans votre opinion sur ma musique ». Il est clair que Saint-Saëns n'apprécie pas le côté novateur, puisqu'elle parle d'idées très neuves. Ces idées très neuves ne plaisent pas à Saint-Saëns, c'est comme ça que je le comprends. Et nous écoutons maintenant Blasphème de Marie-Jaël par David Bismuth. Blasphème fait partie de ce recueil de 1894.
Vous écoutez Silencio sur France Musique, qui parle aujourd'hui du silence imposé aux compositrices. En préparant cette émission, à titre personnel, je suis allé de stupéfaction en stupéfaction. Par exemple, saviez-vous que le mot « compositrice » apparaît dans le dictionnaire de l'Académie française dans les années 1930, que la première compositrice à l'Académie des Beaux-Arts, Edith Cana de Chizy, a été élue en 2005, et que sur l'ensemble des compositeurs contemporains, la Société des auteurs a donné un chiffre éloquent. Si les étudiantes représentent bien 52% des élèves au conservatoire, parmi les compositeurs professionnels, le chiffre tombe à 10%, ce qui veut dire que 9 compositeurs sur 10 sont des hommes. Regarde outre-Atlantique, avec le sujet des femmes afro-américaines, un sujet brûlant actuellement, Nina Simone a beaucoup souffert de ne pas avoir été acceptée au Curtis Institute de Philadelphie pour devenir pianiste classique. Chez elle, il y avait le fait d'être femme, mais également noire. Mais concernant les musiciennes afro-américaines, Florence Launay, vous souhaitiez nous parler d'une compositrice dont la musique est très impressionnante et dont on entend actuellement le prélude pour piano par Peter Nelson King, c'est Julia Perry. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette compositrice qu'on redécouvre aujourd'hui ?
Alors, Julia Perry est née en 1924. Elle a été élève de la Juilliard. Et après, elle a reçu 2 fois la bourse Guggenheim, une très prestigieuse bourse américaine, pour continuer ses études de composition en France avec Nadia Boulanger et en Italie avec Luigi Dalla Piccola. À son retour aux USA, elle est devenue enseignante à l'université de Tallahassee. C'est une des universités pour les étudiants afro-américains, fondée en 1887. Et elle a continué à composer beaucoup, notamment 12 symphonies. On sait encore très peu sur sa biographie. En tout cas, le grand chef américain William Steinberg l'a soutenue en dirigeant plusieurs fois sa Short Piece for Orchestra. Et j'ai enfin pu localiser ses œuvres, c'est tout récent. J'ai fait une recherche sur Twitter et je suis tombée sur une musicologue américaine, Kendra Preston, qui possède des manuscrits, qui m'a dit que malheureusement beaucoup d'œuvres ont été détruites à la mort de Julia Perry, mais enfin, un travail d'édition a commencé maintenant, qui est tout à fait passionnant.
Mais nous allons écouter A Short Piece for Orchestra de Julia Perry, et c'est la création par le New York Philharmonic dirigée par William Steinberg en 1965. Thank you. Vous êtes dans Silencio sur France Musique et nous écoutions A Short Piece for Orchestra de l'américaine Julia Perry. En janvier dernier, dans le carrefour de la création de France Musique, nous avions consacré une émission aux compositrices d'aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter en podcast, l'émission s'appelle Place aux compositrices. À chacune des 5 musiciennes présentes, nous leur avions posé une question un peu provocante. Est-ce que les femmes font de la musique de femmes ? C'est-à-dire, écrivent-elles une musique plus douce que les hommes ? Voici ce que la compositrice Raphaël Biston avait répondu.
Alors, cette question peut paraître en effet simple, et c'est pourtant c'est quelque chose qui revient très souvent à l'issue des concerts. Enfin, moi, beaucoup de gens m'ont déjà dit que ma musique était féminine ou que c'est bizarre, au contraire, elle n'était pas du tout, ou des choses comme ça. En fait, le fait d'être une femme compositrice et le fait que ce soit rare fait qu'on vous place comme objet femme compositrice qui doit avoir des différences avec les compositeurs. Et donc on cherche, on s'évertue à chercher dans votre musique ce qui est féminin ou ce qui ne l'est pas. Et en fait, à mon sens, c'est une question qui ne devrait pas avoir lieu d'être.
Une question qui ne devrait pas avoir lieu d'être, et pourtant, la musique contemporaine est loin d'être à l'abri des clichés du genre. Aujourd'hui, des compositrices comme Raphaël Biston, Olga Neuwirth, Kaya Sarayao ou Rebecca Saunders sont reconnues comme de grandes créatrices à part entière. Mais durant très longtemps, une femme ne pouvait pas écrire une musique sérieuse, une musique profonde, composer un quatuor ou une symphonie. Ce cliché sexiste n'est pas si ancien, puisque l'une des périodes les plus, même disons, misogynes de l'histoire de la musique est très certainement la période contemporaine d'après-guerre. Les grands génies intellectuels étaient des hommes, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen ou Luigi Nono, et les femmes étaient souvent réduites à l'improvisation ou à la performance théâtrale et musicale. Mais Florence Launay, vous souhaitez évoquer un cas plus ancien, très étonnant et très révélateur, c'est celui de la Britannique Rebecca Clark qui reste méconnue.
Rebecca Clark était une altiste virtuose, elle a été partenaire de Casals, de Rubinstein et autres grands interprètes, et elle est maintenant considérée parmi les compositeurs et compositrices britanniques les plus importants de l'entre-deux-guerres. Elle a reçu, dans les années 20, deux fois des prix du concours américain Coolidge pour la musique de chambre. Mais elle est arrivée à cette époque où les compositrices qualifiées sont de plus en plus nombreuses, mais où les carrières sont plus difficiles qu'auparavant. C'est paradoxal, mais c'est vrai. En partie, et cela concerne bien sûr aussi les compositeurs, parce que les loisirs des classes aisées, les mécènes notamment, ces loisirs changent, et un important lieu de constitution de réseau, le salon musical, est en train de disparaître. Mais aussi, une autre raison, c'est que ces nombreuses compositrices qualifiées ne peuvent pas, comme dans le passé, être considérées comme des exceptions, des bizarreries de la nature. Elles mettent en danger l'ordre établi et, comme beaucoup, dans beaucoup de cas, les progressions de l'émancipation des femmes, il y a un retour en arrière, les résistances s'accroissent.
Et d'ailleurs, vous souhaitiez raconter une anecdote un peu révélatrice?
Oui, Rebecca Clark a fait cette expérience dans un concert à Londres en 1917. Elle était gênée par l'omniprésence de son nom dans le programme, puisque c'est un concert qui présentait majoritairement ses œuvres. Donc elle en a attribué la moitié à un imaginaire Anthony Trent. Et après le concert, on a pu voir des critiques qui encensaient ce nouveau jeune compositeur si doué et qui ignorait les œuvres de Rebecca Clark dans le concert.
Alors que tout était signé Rebecca Clark.
Voilà.
Thank you.
dernier point qui explique le silence assourdissant des femmes dans l'histoire de la musique, c'est la musicologie. Et cela, Florence, c'est un sujet qui vous tient à cœur ?
Oui, parce que c'est finalement pas encore très connu, ce que je vais vous dire maintenant. On parle facilement dans l'histoire de la musique d'une espèce de décantation naturelle, tout ce qui surnage, c'est ce qui est bon. Et on ne parle pas vraiment des mécanismes, en fait, beaucoup plus compliqués de ce qui subsiste. Il se trouve qu'au XVIIIe et XIXe siècle, on trouve des compositrices dans les travaux de ce qu'on appelait les musicographes, par exemple la biographie universelle des musiciennes Fétis. Et à partir de 1900, quand la musicologie commence à s'établir, elle va être considérée comme une science de la musique. Et là, l'écriture de l'histoire de la musique devient quasiment masculine. Et je pense que c'est un choix délibéré, qui est probablement la plupart du temps inconscient. Mais enfin, pour faire carrière comme musicologue, il faut choisir des sujets de recherche dont l'importance va rejaillir sur les chercheurs qui s'y consacrent. On peut dire des sujets de recherche légitimes. Et les compositrices sont déjà perçues comme illégitimes. Donc, les étudier n'est pas valorisant et peut-être même ce n'est pas sans danger pour la carrière. Quand on regarde les universités françaises, notamment, on voit qu'à de rares exceptions près, les quelques enseignants, enseignantes, chercheurs qui s'intéressent aux musiciennes viennent après s'être établis avec des sujets traditionnels. Donc, la recherche sur les musiciennes reste marginale et elle peine à être intégrée dans l'histoire générale de la musique. Et ce manque de modèles du passé pèse très lourd sur les carrières des compositrices d'aujourd'hui.
Un extrait de Sillage de Raphaël Biston par l'ensemble orchestral contemporain dirigé par Daniel Kafka. Il se passe beaucoup de choses autour des compositrices actuellement. Florence Launay, vous avez participé au livre L'égalité en actes aux éditions MF et CDMC et au tout nouveau projet Demandez à Clara.
Oui, c'est vrai que le livre L'égalité en actes a été très remarqué et s'est ajouté aux enquêtes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques pour révéler la réalité de la discrimination dans le spectacle vivant. Il présente aussi des portraits de 53 compositrices d'aujourd'hui. Quant à Demander à Clara, c'est la base de données du site Présence Compositrice, initié par Claire Baudin, qui a créé en 2011 le festival Présence Féminine de Toulon. Demander à Clara, c'est un outil pour faire entrer les compositrices dans les programmations, pour contrer l'argument des réfractaires qui vont dire « mais où sont les œuvres ? On n'en trouve pas, il n'y en a pas ». Alors, on trouve là plus de 700 compositrices du 17e à nos jours. Et pour en arriver, je l'espère, d'autres personnes l'espèrent aussi, à ce que la présence de compositrices dans les concerts devienne une normalité et non une exception, comme c'est le cas actuellement.
Pour conclure notre deuxième Silencio, nous allons évoquer une compositrice qui résume un peu tout. C'est une grande compositrice qu'on redécouvre aujourd'hui. Sa symphonie Grande Guerre de 1917 n'avait jamais été jouée de son vivant, mais elle a été interprétée l'année dernière par l'orchestre Victor Hugo, Franche-Comté par la chef Deborah Waldman. Et elle sera rejouée le 1er juillet 2021 aux côtés d'œuvres d'Augusta Holmès, Mel Bonis et Marie-Jaël par l'Orchestre National de France à la Maison de la Radio. c'est Charlotte Sohi. Elle est en pleine redécouverte et elle montre que les hommes ne sont pas l'ennemi, car son mari, Marcel Labbé, l'a toujours soutenue. Florence, comment vous pourriez présenter Charlotte Sohi ?
Bon, Charlotte Sohi, c'est vrai que j'ai envie de rebondir sur ce que disait Gustave Mahler, parce que c'est un couple, une compositrice et un compositeur qui ont été heureux, qui ont tous les deux composé, c'était tout à fait possible. Alors, ils se sont rencontrés à la Schola Cantorum, ils étaient tous deux élèves pour la composition de Vincent d'Indy, et Vincent d'Indy est témoin à leur mariage en 1909. C'est vraiment un exemple d'entraide entre deux artistes. Ils se conseillent mutuellement. Charlotte écrit le livret de l'opéra de Marcel. Marcel dirige les œuvres de Charlotte, notamment son opéra. Ils ont eu 7 enfants. Une famille qui a conservé les œuvres, c'est une grande chance pour les compositrices. On voit pour Julia Perry, des choses ont disparu. Et par contre, pour Melboni et Charlotte Sohi, la famille a conservé ce qui fait qu'on peut faire des éditions, et là, c'est la chance posthume d'un petit-fils musicien, François-Henri Labbé, qui maintenant est en train de tout éditer, et une chef d'orchestre, Deborah Wallman, qui s'est intéressée aux œuvres et qui les dirige. Alors, Charlotte a commencé sa symphonie à l'automne 1914. Marcel était déjà au front. Elle a même cru, en 1915, qu'il était mort. Sa symphonie est une œuvre sombre qui reflète les tourments par lesquelles elle est passée.
Donc nous quittons sur le premier mouvement de cette symphonie Grande Guerre de Charlotte Sohi par l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté dirigé par Deborah Wallman. Merci beaucoup Florence pour toutes ces précisions et pour tous ces beaux choix musicaux.
Merci à vous.
Thank you.
un extrait de la symphonie Grande Guerre de Charlotte Sohi par l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté dirigé par Deborah Waldman. C'est ainsi que s'achève le deuxième épisode de Silencio, une émission préparée par Pauline Boisaubert, prise de son et mixage Philippe Thibault, réalisation Claire Lagarde. La semaine prochaine dans Silencio, nous abordons les musiciens comme Rossini ou Jacques Brel qui s'arrêtent à cause du succès. Bon dimanche sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.